C'est toujours un vrai plaisir, je le dis, mais parce que je le pense, de retrouver mes deux acolytes. Attention, acolytes.
Acolytes, oui, oui. On n'est pas les anonymes.
Voilà. Philippe Loni et Diego Arabal. Bonjour tous les deux.
Bonjour Philippe Subercase.
Bonjour Diego Arabal. Bonjour Philippe Loni.
Alors, il est sur les starting blocks aujourd'hui, Philippe Loni, parce qu'effectivement, en radio, il n'y a pas les images, mais il a déjà le livre ouvert et il l'a dans la main. Et il est sur les starting blocks. Je le sens. Impatient de nous présenter l'invité de cette semaine.
Tout à fait. Allez, pour cette semaine, donc, je vous propose d'effectuer un petit retour dans le temps. Un retour dans cette école de notre enfance, ou plutôt d'une certaine enfance. Cette école que n'ont pas connue, on va dire, les moins de 50 ans. Cette école, c'était celle de nos maîtres, de nos maîtresses. Cette école primaire qu'on jugerait aujourd'hui d'un autre temps. Allez, partons dans le passé, retrouver nos maîtres avec Anthony Seron et son très beau roman, Le béret du maître, aux éditions Passiflore. Bonjour Anthony Seron.
Bonjour.
Alors, le Bonjour béret Anthony. Du maître aux éditions Passiflore. Le titre renvoie déjà à un temps d'autrefois, un temps qui paraît si lointain, et à la fois si proche dans notre souvenir. Je vais tout d'abord lire la quatrième de couverture de votre roman. Le béret apparaissait d'évidence comme un prolongement du corps du maître. Il le portait entêté, juste ce qu'il faut, de sorte qu'aucun courant d'air matinal n'est prise sur lui. Année scolaire 1980-1981. François Mitterrand devient président de la République. Mais à Saint-Vincent de Tyrosse, village situé dans le sud des Landes, c'est un autre homme qui retient l'attention du jeune narrateur. Monsieur C, maître figé dans le temps et redouté de tous les goûts. Les goyates.
Vous avez besoin de lunettes.
Ouais, j'ai besoin, oui, tout à fait. 40 ans après, le souvenir de M. C reste intact dans la mémoire de son ancien élève qui, au fil du récit, nous dévoile les scènes du quotidien de sa classe de CME1 pour le plus grand plaisir de notre âme enfantine. Anthony Seron, quelles sont les raisons qui vous ont motivé pour écrire ce roman? On vous écoute.
Je dirais qu'il y a deux raisons. Il y a une première raison qui est liée à l'importance de cette année scolaire pour moi. C'est vraiment une année qui, pour moi, est complètement singulière par rapport à toutes les autres. Sachant que la bizarrerie de ma mémoire, c'est que je n'ai retenu finalement qu'une année scolaire. J'ai oublié mon CE2, j'ai oublié mon CE1 et j'ai même oublié mon CM2 après. Et presque aussi la sixième. Donc vous imaginez quelle importance a eu pour moi Monsieur C et cette année de CM1. C'était une époque de ma vie très particulière. J'avais perdu mon père peu auparavant et j'avais sans doute besoin d'une figure de substitution. Et cette figure a été Monsieur C, qui était un personnage, imposant et qui pour moi s'est imposé dès le départ. Donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est qu'effectivement, ce livre a maturé au fil du temps. Quand j'étais gamin, évidemment, j'ai pas commencé à écrire. Hein. J'ai vraiment commencé à écrire en y réfléchissant, sans doute aux alentours de l'année 1994. J'avais 23 ans et j'hésitais sur la carrière à suivre. Donc j'étais en passation du CAPES pour devenir professeur de français. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai commencé à me dire, cette mémoire de cette année m'est remontée vraiment de façon puissante à cette époque-là, et en particulier à la lecture d'un ouvrage qui pour moi est fondamental, on y reviendra peut-être, c'est « Le premier homme » de Camus, où Albert Camus évoque la figure fondamentale de son enfance qui est son instituteur. Et là, je me suis dit, bon, c'est très prétentieux de dire ça, mais je me suis dit, voilà ce que je voudrais faire. Je voudrais faire comme Camus. Et se dire ça, quand on sait que Camus est son écrivain favori, c'est se lancer un défi impossible à tenir. Et pourtant, je me suis tenu à ça. C'est-à-dire, je me suis dit, Camus, il a fait quelque chose de très très bien, mais il ne parle pas de toute l'année scolaire. Il ne parle que de quelques scènes scolaires. Et moi, je me suis dit, je veux faire différemment de Camus, je veux raconter toute une année. Donc voilà, en gros, comment les choses se sont passées, mais ça a pris beaucoup de temps, parce que y a plein de choses dans la vie qui font qu'on repousse le temps de prendre ses responsabilités d'écriture.
Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié, je vous le disais tout à l'heure en début d'interview, j'ai énormément apprécié votre roman, alors parce que je vais être âgé là très, très bientôt de 58 ans. Donc on est à peu près, vous voyez, de la même génération, de cette génération qui a connu des maîtres qui portaient le béret. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je vois quand mes enfants ont été à l'école primaire, je n'ai jamais vu un maître porter le béret. Quelque part, ça aurait pu paraître désuet. La deuxième chose qui m'a touché, c'est que moi, la classe que j'ai retenue, vous, c'est celle de CM1, moi c'est la classe de CM2. Mmh. Et je vais lire un passage du début de votre roman où vous expliquez effectivement que vous avez été en moyenne section à Bergerac. Et puis il se trouve que moi j'ai fait mon école primaire, le CP, donc à Bergerac également. Donc je trouvais qu'il y avait quand même un certain nombre de choses qui étaient intéressantes. Et c'est tout ce monde que vous décrivez, dans lequel effectivement je me suis retrouvé. Je n'avais jamais lu un roman comme le vôtre. Hein, donc je rappelle le titre pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent. Hein, Le Béret du Maître, donc aux éditions Passiflore, donc de vous, Anthony Sauron. J'avais jamais lu un livre qui avait eu cette capacité à me ramener effectivement dans mon enfance avec, à un moment donné, cette description que vous faites de gamin qui joue aux billes. Je me suis revu jusqu'en CM2, en 6e ça a été terminé, mais jusqu'en CM2 on faisait des concours de billes avec les boulards, avec les agates. Mmh. Et tout ça, j'ai trouvé ça très touchant parce que vous avez cette capacité dans votre écriture à transporter les gens dans leur passé. Et ça, c'est quand même une qualité qui est rare et que je voulais souligner juste avant de lire cet extrait, donc qui est en fait le tout début de votre roman et qui évoque ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que vous aviez perdu donc votre mémoire, la mémoire de votre passé d'élève. Donc je vais lire le tout début du roman.
D'accord.
J'ai perdu la mémoire de mon passé d'élève. Celui sur les photos de classe depuis ma moyenne section à Bergerac. Celui de grande section quand on a déménagé dans les Landes, celui qui a appris à lire, écrire et compter au CP, CE1, CE2, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, avec des maîtresses qui n'ont plus de visage aujourd'hui. Ce passé d'élève, je l'ai égaré, moi qui suis toujours aussi distrait, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte manqué. Cela dit, oublier son passé d'élève, j'y inclus mon pitoyable CM2, n'a rien de si extraordinaire. Naturellement, je ne suis pas unique en mon genre. De combien d'années scolaires sommes-nous vraiment capables de nous souvenir autrement que dans les grandes largeurs, 40 ans après ? Voilà une très belle question, je trouve, qui est posée, et vous posez vraiment bien les choses au début de votre roman, parce que moi, j'ai le même souvenir que vous. Je ne me souviens pas du visage de mon institutrice en CE1, en CE2, ni même en CM1. J'en suis totalement incapable et je suis même incapable de me rappeler de leur nom. C'est vous dire à quel point votre roman est très touchant. Alors, est-ce que vous avez voulu faire un roman à travers ça sur le souvenir ou sur l'oubli ou sur les deux ?
En fait, je vais vous dire les choses autrement pour répondre à votre question. Quand vous employez le verbe vouloir, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en fait, c'est le roman qui vous veut. C'est votre récit qui vous appelle. Moi, j'avais pas décidé à un moment donné, vous voyez, il y avait vraiment depuis de longues années le souvenir de cette classe. Et j'avais quand même une singularité quand j'en parlais à mes proches. C'est que j'avais l'impression, quand je leur parlais, de revivre les événements. Donc ça, c'est vrai que c'était une spécificité. Mais en réalité, moi, je poursuis l'écriture depuis ce livre. Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'écriture qui vous appelle. En fait. J'avais pas une volonté, vous voyez, j'avais pas une volonté, par exemple, de rendre hommage. C'était pas mon intention. J'avais pas une volonté de me souvenir. C'était pas comme, allez, il faut que tu te souviennes. C'est très concrètement... Comme si, alors vous allez, encore une fois, ça peut paraître prétentieux parce que j'emploie des termes un peu littéraires, mais c'est comme une illumination, c'est-à-dire de dire, ben voilà, il y a tout qui vous revient, et puis simplement ce que vous avez à faire, c'est écrire, et puis après essayer de retravailler le texte, ce qui est encore autre chose. Mais c'est vraiment un appel, on peut entendre l'appel de la forêt, moi j'ai eu un appel de mon école élémentaire, et ce que je trouve assez magique, c'est que cet appel a eu lieu au moment où moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que tu dois faire de ta vie, notamment professionnelle, et il se trouve que je suis devenu professeur. Donc cet appel, il a été extrêmement puissant dans mon existence, et encore aujourd'hui, je l'entends, en fait. C'est très bizarre d'expliquer les choses comme ça, mais c'est vraiment un appel de mon CM1 qui a été pour moi l'année... C'est une année de puissance où vraiment, vous voyez, chaque fois que j'en parle, pour moi, je le revois. En fait, c'est ça qui est important, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure très bien quand vous parliez de votre propre scolarité, il y a des choses qu'on ne voit plus. c'est triste de se dire qu'il y a des cassettes vidéo qui sont effacées, en quelque sorte. Mais moi, là, la cassette vidéo, chaque fois que je la rallume, je vois les mêmes choses. Et je suis capable, ce qui est, enfin, je trouve assez magique pour moi, d'aller du mois de septembre au mois de juillet. Donc, carrément de balayer toute l'année scolaire. Donc ça, c'est fascinant pour moi. Et ça a été très dur, en fait, parce que restituer sa mémoire, c'est très compliqué. Parce que il faut trouver les mots et se dire, voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir exprimer de ce qui est aussi puissant en moi. C'est très, très compliqué. Mais voilà, j'y suis arrivé et ça a été un vrai bonheur, mais il m'a fallu beaucoup, beaucoup de temps.
Mais moi, ce que je trouve fabuleux dans cette restitution de la mémoire, c'est que j'aurais pu lire votre livre en disant, ben non, moi, je suis désolé, on a quelques années d'écart, mais j'ai pas du tout vécu la même chose. Ce monde qu'il décrit, pour moi, il n'a jamais existé. Or là, le monde que vous décrivez, notamment avec cet instituteur, hein, qui tient sa classe du main de fer, quoi. Qui procède donc à... Et j'ai connu exactement la même chose. Hein. Le meilleur élève est premier devant, le deuxième avec ses résultats deuxième, le troisième est troisième. Nous, on avait même des porte-manteaux avec des chiffres et on devait mettre... Donc tout ça, je l'ai connu, ça n'existe plus tout ça aujourd'hui. C'est un monde qui a disparu. C'est un monde qui a totalement disparu. Et malgré tout, vous voyez, quand moi je l'ai vécu, et c'est la question que je voulais vous poser, quand je l'ai vécu, je trouvais... que c'était quelque chose de très dur. Et aujourd'hui, j'éprouve une certaine nostalgie vis-à-vis de cette époque. Et j'ai l'impression que dans votre livre, il y a cette même nostalgie. Est-ce que je me trompe en disant ça ou pas ?
Non, vous ne vous trompez pas. C'est difficile quand même pour moi, parce que c'est des questions qu'on m'a parfois posées. Oui, Anthony, notamment des gens qui ont vécu l'enseignement de ce monsieur C, qui me disent « Oui, quand même, tu es nostalgique de quelque chose qui était très dur, c'était un maître brutal. » Enfin, on pourra peut-être en parler si vous voulez. Mais moi, c'est vrai que je l'ai vécu comme quelque chose de fort. En fait, je ne garde que ce qui m'a touché. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour moi, ce maître, c'était un individu de substitution. Moi, j'ai un père qui est décédé dans des conditions atroces, qui est décédé, on va dire, dans sa fragilité. Et pour moi, là, j'avais un être puissant auquel il fallait que je me rattache pendant un an. Donc, ma mémoire, je pense qu'elle a été catalysée par le fait que ce personnage, il me tenait, en fait. Il me permettait de vivre. Moi, j'ai souvent dit que s'il n'avait pas été là, je ne sais pas comment j'aurais tourné. Il a été fondamental. Donc, ça, c'est vraiment important. Mais je voulais ajouter un truc par rapport à ce que vous disiez. Quand on écrit sur l'école, on est dans une écriture qui est très particulière, parce que on a beau écrire sur soi, on écrit pour les autres et avec les autres. C'est-à-dire que chaque lecteur a sa propre mémoire de l'école. Donc vous touchez les gens avec vos propres anecdotes, vous les touchez en fait. Et c'est très difficile parce que ça demande énormément de responsabilité. Je prends deux exemples littéraires, enfin un exemple particulier, quand Pagnol parle de son école. Alors Pagnol, il parle pas de la même école, hein, puisque il parle du début des années 20, hein, mais le début, pardon, du 20e siècle. Mais en fait, Pagnol, ça a beau être complètement désuet, complètement dépassé par l'école d'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, en fait, il vous touche, parce que vous êtes obligé de revenir avec lui sur les bancs de l'école, et même si les bancs n'étaient pas identiques. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et moi, je sais en tout cas une chose, c'est que tout au long des années où je n'avais pas encore écrit ce livre, c'est-à-dire des années 94 aux années 2020, je me suis beaucoup intéressé à la façon dont les écrivains et les cinéastes représentaient l'école. Donc je pense par exemple aux 400 coups de François Truffaut au cinéma, je pense à Marcel Pagnol, je pense à Camus, etc., etc. Et à chaque fois je me disais, eux ils arrivent à le faire, et toi comment tu vas pouvoir le faire ? Et ce qui me touchait, c'est exactement ce que vous avez retrouvé dans mon livre, c'est que même quand François Truffaut me parle de la fin des années 50, avec un maître en blouse grise qui n'a rien à voir avec Monsieur C, eh bien en fait ça me touche parce que ça me renvoie à ma mémoire scolaire. Et je crois que la mémoire scolaire, c'est quelque chose de très très particulier que tout individu a. Et c'est vrai que quand vous touchez ça en tant qu'écrivain, parce que moi je ne désigne pas comme un écrivain, en tant qu'écrivain, eh bien, vous touchez une corde sensible qui est extrêmement forte, en fait. Et évidemment, ce livre n'est pas un best-seller à 1 million d'exemplaires, mais le peu de retours que j'ai eu me ramène toujours à la même chose. C'est-à-dire, j'ai des gens qui sont extrêmement touchés. Et même si vous avez 3 lecteurs, pour moi, c'est important. C'est-à-dire, je m'en fiche de savoir s'il y en aura 10 000. Le fait qu'il y ait 3 personnes qui disent « Voilà, moi, j'ai été touché par votre livre parce qu'il m'a transporté dans ma propre mémoire », ça, je trouve ça vraiment... galvanisant pour un auteur.
Alors, moi, c'est exactement le cas. Et on va parler là d'un aspect que vous évoquez à l'instant, hein, c'est la brutalité du maître qui en fait, était dans le contexte de l'époque. Parce que moi, le maître que j'ai connu en CME2 était très brutal. Très brutal. C'est-à-dire, ceux qui étaient dans le ventre mou du championnat, comme je dis, au niveau du classement, donc de la classe, ben, ramassés pour les autres. Hein. La première de la classe, elle pouvait faire une connerie. Alors, c'est rigolo, parce que quand vous dites qu'il y avait la première et qu'il y avait l'élève, donc le deuxième, la première élève de la classe, c'était une élève, je me rappelle, qui s'appelait Véronique Boutin, et le deuxième, c'était un élève dont j'ai oublié le nom, je ne m'en souviens plus, je ne suis même plus capable d'arriver à voir son visage. Mais c'était exactement dans la même chose que vous, et donc elle ne ramassait jamais. Par contre, les autres, ils nous prenaient par les cheveux au niveau des tempes et ils nous levaient du sol.
C'est ça.
Et là, je m'y retrouve. C'est les mêmes, ce sont les mêmes punitions. Et voyez, j'aurais pu avoir, en le lisant, j'étais surpris parce que, comme c'était vos mots, c'est-à-dire les mots d'un autre que les mots que je peux avoir moi pour, en moi-même pour le ressentir dans une forme de soliloque, je m'attendais à ce que je me dise, putain, mais ça, c'était quand même une époque qui était dure, et pas du tout. Je ne me suis pas du tout dit ça. Je me suis simplement dit, voilà, c'était une époque. Et vous avez la capacité à la décrire, c'est-à-dire qu'en lisant votre roman, j'ai même ressenti l'odeur du savon aux amandes que l'on avait, vous savez, dans ces boules qu'on retournait, et que je sentais ma main, et je sentais ce savon aux amandes qui m'a accompagné. Là, ça, par contre, je m'en souviens du CP, jusqu'en CM2. C'est véritablement étonnant. Et en fait, votre roman, et c'est la question que je voulais vous poser, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un roman olfactif? Parce que moi, il y a tout un tas d'odeurs, c'est-à-dire certaines odeurs qu'on sentait en classe, notamment l'odeur, moi j'avais les tables en bois, donc il y avait une odeur bien particulière, il y avait les cartes, vous savez, qu'on avait au tableau, ces vieilles cartes de France. Par moments, je m'approchais, je les sentais. Est-ce que vous n'avez pas voulu faire un roman olfactif également?
Alors c'est très possible, il faut aussi vous dire que, bon, tout à l'heure j'ai parlé de Camus, je suis transsensible, moi je travaille beaucoup sur la littérature, donc c'est vrai que quand vous travaillez sur la littérature, et d'ailleurs entre parenthèses, c'est ce qui m'a beaucoup bloqué, c'est que quand vous travaillez sur Proust, sur Camus, sur Balzac, etc., que vous faites des cours là-dessus, des conférences, vous vous sentez un petit bonhomme à côté. Donc être un petit bonhomme, ça veut dire, mais est-ce que ça vaut le coup que je remette tout ça sur le chantier, alors que ça a déjà été fait d'une certaine façon et beaucoup mieux. Et très honnêtement, Proust m'a beaucoup aidé, parce que Proust, une fois qu'on sort des idées préconçues sur cet auteur, on se rend compte que tout est dans la sensibilité, tout est justement, et vous y insistez, sur l'odorat. Et en fait, tout à l'heure je disais que c'était une sorte d'illumination, de mémoire involontaire, dirait Proust, donc c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui vous relie à votre mémoire, ce n'est pas l'intellect, moi je ne suis pas un intellectuel, je n'ai pas envie de me définir comme ça, moi c'est vraiment l'olfactif par exemple est essentiel, par exemple là quand vous me parlez, à l'instant même où vous me parlez de ça, moi je pense à l'odeur du parquet. Exactement. Je pense à l'odeur de la craie. Donc, vous voyez, on est exactement dans ce que vous dites. Et là, vous me touchez d'autant plus que j'en parle pas dans mon livre, mais le savon dont vous parlez, qui ressemblait à un ballon ovale, moi.
Exactement. Oui, tout à fait.
On aurait dû coincé dans un truc en aluminium, comme ça.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'était extraordinaire. Entre parenthèses, ce qui est fabuleux et rétrospectivement très intéressant, c'est de rendre compte le rapport à l'hygiène qu'on avait, qui était très différent, puisqu'on se lavait tous avec le même savon. Vous voyez, aujourd'hui, on a des petites bouteilles où il y avait, vous voyez, on appuie. Bon, c'était, vous l'avez très bien dit, ça, cet exemple du savon, qui est, à mon avis, excellent. C'est vraiment ça. C'était un autre monde, c'est une autre façon de concevoir les choses, y compris au niveau de l'hygiène. Donc, vous voyez, l'exemple est tout à fait fameux. Mais oui, l'odeur, le son, le toucher, mais en tout cas, l'odeur, oui, parce que là, vous voyez, le simple fait que vous m'en parliez, tout de suite, ça revient. Vous voyez, mes images, en fait, c'est ça que je trouve intéressant, les images qui me viennent dans le cerveau, alors même que vous êtes en train de me parler de ça, je m'en rends compte en vous en parlant, c'est vraiment par l'odeur, effectivement. Y compris la terre battue des arènes, hein, quand nous sommes allés faire des échappes.
Diego Arrabal.
Oui. Non, mais je vous laisse terminer. Mais,
Non, mais c'était ça. C'était, voilà, je trouve très judicieux votre approche du livre.
Vous savez que les personnes qui perdent la mémoire, la dernière mémoire qu'elles perdent, c'est celle des odeurs. Parce que la perception des odeurs, elle se situe dans une partie du cerveau qui est la plus primitive, qu'on appelle le cerveau reptilien, hein, et qui est donc la première qui se développe. Et donc la première chose que nous emmagasinons en termes d'informations, c'est de l'odeur. Et c'est la dernière qui disparaît lorsque les personnes perdent totalement la mémoire.
Mais je suis content que je sois un reptile. Voilà, ça me satisfait.
Voilà. Mais nous le sommes tous, des reptiles. Ouais.
Mais il faut que nous le soyons probablement un peu plus. J'ai peut-être qu'il manque aux êtres humains, c'est peut-être cette question-là, par ouais. rapport aux odeurs. Voilà. En tout cas, oui, voilà, très bien. Je retiens le reptile.
Et je pense que ça, vous voyez ce que l'on soulève là, et je trouve que c'est important dans votre roman. C'est pour ça que je dis que quelque part, c'est un roman olfactif. Parce que je me rappelle la première fois que j'ai été donc en classe accompagner ma fille en CP, l'institutrice m'a proposé de rester une matinée. Ce qui m'a surpris, il y a deux choses qui m'ont surpris. C'était le décor en classe, donc complètement différent de celui qu'on avait, et les odeurs. Il y avait une odeur aseptisée, c'est-à-dire on sentait qu'il y avait tout un tas de produits qui avaient été mis pour aseptiser. Et moi je me rappelle quand il y avait les parquets, il y avait cette odeur de cire.
Caustique, ouais.
Et il y avait cette odeur effectivement
un
sur le
piquante,
tableau, un peu piquante, voilà, tout à fait. Et il y avait cette odeur effectivement décrite. Alors moi aussi, ce qu'on retrouve dans votre roman, c'est aussi le côté auditif, c'est-à-dire la craie qui est écrite sur le tableau et le bruit, exactement, ce petit bruit que ça pouvait faire. Et je le recommande vraiment, votre roman, aux auditrices et aux auditeurs. Anthony Seron, je rappelle le titre, hein, Le Béridimètre, aux éditions Passiflore. Alors je pense qu'il est intéressant, je disais tout à l'heure, c'est pas un roman que pour les plus de 50 ans ou les plus de 45 ans. Je pense que pour celles et ceux qui ont moins de 45 ans, qui font partie de cette génération, qui n'ont pas connu cette génération de maîtres et de maîtresses que vous décrivez, mais surtout de maîtres dans votre roman, je pense que c'est intéressant de le lire parce que c'est un témoignage de ce que nous, on a vécu pour qu'ils comprennent que ben, c'était une autre époque, comme eux sans doute quand ils vont avoir des enfants qui seront grands, iront peut-être, comme je l'ai fait, comme vous l'avez fait, dans une école, poursuivre leurs enfants sur une matinée, à l'invitation du maître ou de la maîtresse, et découvriront une école qui n'est plus du tout la leur.
Tout à fait.
Après, moi, j'ai une question justement par rapport à votre livre, c'est sur le béret du maître. Est-ce que vous avez voulu, dans ce livre, essayer de soulever chez l'auteur, chez le lecteur ou la lectrice, une forme de nostalgie? À un moment donné, je me suis dit, tiens, mais j'ai l'impression que ce qu'il veut faire, c'est me montrer que cette époque-là, finalement, même si les maîtres étaient durs, hein, on l'a dit, c'était un maître brutal. Et moi, parce que j'ai retenu de ce maître, c'était, je me rappelle, c'est pas la mer à boire. Des expressions que j'emploie encore aujourd'hui, alors que je m'étais juré à l'époque de ne jamais les employer, tellement je pensais que ce mec-là était un gros con. Et puis avec le temps, on se rend compte que... Est-ce que votre roman, quelque part, c'est pas une invitation à la nostalgie?
Alors, effectivement, c'est toujours pareil, il faut vraiment distinguer le regard rétrospectif qu'on porte sur une œuvre et le regard, enfin, la façon dont on la conçoit. Effectivement, quand je relis, et je le fais peu, mais quand je relis ce livre, effectivement, j'y vois de la nostalgie. J'y vois de la nostalgie, mais je pense que la nostalgie est double. Il s'agit pour moi effectivement d'une nostalgie d'une certaine école qui m'a sauvé. Donc moi je suis très attaché à l'école républicaine, je vais y revenir dans un instant, mais il y a une deuxième nostalgie, c'est que pour moi c'est la fin de l'enfance. C'est vraiment la fin de l'enfance parce que en fait mon maître m'a permis de prolonger l'illusion de l'enfance. J'avais perdu mon père, il m'a permis d'avoir une année de bonus en fait. Et vraiment après, ça s'arrête. Et j'ai vécu ensuite des années scolaires beaucoup plus difficiles. Alors, j'ai jamais été un mauvais élève, hein. J'ai été un élève plutôt moyen. Mais franchement, là, il y a un effet de rupture. Donc, pour moi, cette magie-là, elle est d'autant plus forte que quelque chose s'arrête après. Et ce qui fait que, et certains lecteurs l'ont pas compris, hein, ils peuvent avoir l'impression que j'exonère le maître de sa brutalité. En réalité, c'est pas du tout ça. Moi, de mon petit point de vue, le maître, même quand il me mettait des grosses bouffes, pour permettre l'expression, et qui me faisait mal, jamais je me serais plaint. Et quelque part, mon premier sentiment, c'était d'essayer de retrouver sa confiance. Donc, moi, je ne l'ai jamais jugé, je ne l'ai jamais estimé dictatorial, alors même qu'il avait une grande brutalité. Mais puisqu'on parle de nostalgie, moi, je vais vous dire, lui-même, il avait une nostalgie. C'est ça que j'ai compris beaucoup plus tard. Parce que là, on est dans l'année 1980-1981. Et un siècle auparavant, pile poil un siècle auparavant, on a les grandes lois scolaires en France. L'école, la gratuité, etc., etc. Donc, les grandes lois de la Troisième République pour l'école, c'est 1880-81-82. Donc, on est 100 ans auparavant. Et en fait, voilà, c'est Ferry. Et lui, en fait, il était lui-même porteur des valeurs et peut-être d'une nostalgie de cette école de la Troisième République. Donc, vous voyez, on parle de nostalgie, mais en fait, tout ça, c'est un rapport de transmission. Parce que lui, il portait la Troisième République, et moi, quand je travaille, quelque part, je suis porté aussi par beaucoup de choses qu'il m'a apprises, alors même que sa brutalité était réelle. Moi, je ne l'exonère pas du tout. Mais, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, on est dans une époque, et moi, tous les souvenirs de tous les lecteurs qui m'ont lu et que je connais me disent la même chose. Ils me disent, et encore, il y en a certains qui me disent, quand on nous tirait les oreilles, ça montait très très haut. Donc, il y avait vraiment des choses extrêmement douloureuses pour les élèves. Moi, quand j'ai pris une bouffe, parce que j'avais eu le malheur d'aller jouer au foot au lieu d'aller au rugby comme je devais y aller, cette claque terrible que j'ai prise, je n'aurais même pas eu, à la moindre seconde, je me suis dit, je vais me plaindre à ma mère. Enfin, je veux dire, ça ne serait même pas venu à l'esprit.
Mais ça, je crois que c'était effectivement l'époque. Hein. C'est-à-dire que quand on se faisait corriger au collège, je n'en ai jamais parlé, au collège, à l'école primaire, on n'en parlait jamais. Je n'en ai parlé que des années après à mes parents.
Je suis d'accord avec vous.
Avec ma mère qui m'a dit, mais pourquoi tu ne nous en as pas parlé avant?
Et, c'est exactement
et
la
je
même
n'ai
chose
pas su répondre à cette question.
Et ouais.
Sur le moment. Je
suis tout à fait d'accord avec vous. C'est exactement ça. Donc j'ai rien à ajouter parce que c'est exactement le même sentiment.
J'ai pas su répondre à cette question. Et aujourd'hui, je me dis, je l'ai pas fait parce que ben ça paraissait normal. Alors après, on n'en est pas mort. on en parle souvent entre nous. Encore merci d'avoir été avec nous, Anthony Seron, pour le béret du maître, donc aux éditions Passiflore. Merci beaucoup, Anthony, et à bientôt.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Merci. Anthony. Au revoir.